La situation dans le duché d'Aquitaine était toujours difficile et tendue de par le statut singulier de cet immense fief français tenu par un souverain étranger. 100 ans et plus de guerres, de disputes incessantes, de traités contestés ou reniés y avaient laissé leurs séquelles. Quand les vassaux guyonnais, selon leurs intérêts et leurs rivalités, s'adressaient à l'un ou à l'autre des souverains, Marigny toujours s'appliquait à éviter les conflits. D'autre part, Édouard et Isabelle ne formaient guère un ménage harmonieux. Quand Isabelle se plaignait des mœurs anormales de son mari et lui reprochait des favoris avec lesquels elle vivait en lutte déclarée, Marigny prêchait le calme et la patience pour le bien des royaumes. Enfin, la trésorerie d'Angleterre connaissait des difficultés fréquentes. Quand Édouard se trouvait trop à court de monnaie, Marigny s'arrangeait pour lui faire consentir un prêt. En remerciement de tant d'interventions, Édouard, l'année précédente, avait gratifié le coadjuteur d'une pension à vie de 1 000 livres. Aujourd'hui, c'était au tour de Marigny d'en appeler au roi anglais et de lui demander soutien. Il importait aux bonnes relations entre les deux royaumes que les affaires de France ne changeassent point de direction. « Il y va, sire, plus que de ma faveur ou de ma fortune. Vous saurez voir qu'il y va de la paix des empires pour laquelle je suis et je serai toujours votre fidèle servant. » Il se fit relire la lettre, y apporta quelques corrections. « Recopiez et présentez-moi à signer. » « Cela doit-il partir au chevaucheur, monseigneur ?» demanda le secrétaire. « Non point, et je scellerai de mon petit sceau. » Le secrétaire sortit. Marigny dégrafa le haut de sa robe. L'action lui faisait gonfler le cou. « Pauvre royaume, pensait-il, en quelle brouille et misère vont-ils le mettre, si je ne m'y oppose? N'aurais-je donc autant fait que pour voir mes efforts ruinés ?» Les hommes qui, pendant un temps très long, ont exercé le pouvoir, finissent par s'identifier à leur charge et par considérer toute atteinte faite à leur personne comme une atteinte directe aux intérêts de l'État. Marigny en était à ce point et donc prêt, sans nullement s'en rendre compte, à agir contre le royaume, dès l'instant qu'on lui limitait la faculté de le diriger. Ce fut dans cette disposition qu'il accueillit son frère l'archevêque. Jean de Marigny, long et serré dans son manteau violet, avait une attitude constamment étudiée que n'aimait pas le coadjuteur. Enguerrand avait envie de dire à son cadet « Prends cette mine pour tes chanoines, si cela te plaît, mais non pas devant moi, qui t'ai vu baver ta soupe et te moucher dans tes doigts. » En 10 phrases, il lui raconta le conseil dont il sortait et lui communiqua ses directives, du même ton sans réplique qu'il avait pour parler à ses commis. « Je ne désire point de pape pour l'instant, car aussi longtemps qu'il n'y a point de pape, ce méchant petit roi est dans ma main. Donc, pas de cardinaux bien rassemblés et prêts à entendre Bouville quand celui-ci reviendra de Naples, pas de paix en Avignon. Qu'on s'y dispute, qu'on s'y déchire. » Vous ferez ce qu'il convient, mon frère, pour qu'il en soit ainsi. » Jean de Marigny, qui avait commencé par se montrer tout indigné de ce que lui rapportait Enguerrand, se rembrunit aussitôt qu'il fut question du conclave. Il réfléchit un moment, contemplant son anneau pastoral. « Alors, mon frère, j'attends votre acquiescement, » dit Enguerrand.
« Mon frère, vous savez que je ne veux que vous servir en tout, et je pense que je pourrais mieux le faire encore si je deviens quelque jour cardinal. Or, à semer dans le conclave plus de discorde qu'il n'en pousse déjà, je risque fort de m'aliéner l'amitié de tel ou tel papable. Francesco Caetani, par exemple, qui, s'il se trouvait plus tard élu, me refuserait alors le chapeau. »
Enguerrand éclata. « Votre chapeau ! Voilà bien l'heure d'en parler, votre chapeau, si jamais vous devez l'avoir, mon pauvre Jean. C'est moi qui vous en coifferai, que je vous ai déjà tissé votre mitre. Mais si de sots calculs vous font ménager mes adversaires comme ce Caïtan, je vous dis que bientôt vous irez non seulement sans chapeau, mais sans souliers, en misérable moine qu'on relèguera dans quelque couvent. Vous oubliez trop vite, Jean, ce que vous me devez, et de quel mauvais pas encore je vous ai tiré, voici 2 mois à peine, pour ce trafic que vous aviez fait des biens du temple. À ce propos, » ajouta-t-il. Son regard devint plus étincelant, plus aigu, ses sourcils plus épais. « À ce propos, avez-vous bien pu détruire les preuves laissées imprudemment par vous au banquier Ptoloméi, et dont les Lombards se sont servis pour me faire plier ?» L'archevêque eut un hochement de tête qui pouvait être interprété comme une affirmation, mais aussitôt il se montra plus docile et pria son frère de lui préciser ses instructions.